Chapitre 6e. Retour de voyage. Martin Numa aimait se donner à lui-même cette satisfaction d'amour-propre, et il éprouvait une joie sans pareille quand il arrivait à fournir la solution d'un de ces nombreux et mystérieux problèmes qui se posaient à son imagination et à son esprit de déduction. Mais il avait le triomphe modeste. Il semblait qu'une fois qu'il avait prononcé à sa façon ce fameux « c'est ce qu'il fallait démontrer » des mathématiciens, que cette affaire dont il donnait la solution n'existait plus pour lui. Quand il avait jeté au pied du tribunal le bandit après lequel on l'avait lancé, quand il avait débrouillé une intrigue compliquée au possible, qu'il avait fourni la preuve de ce qu'il avançait, surtout quand tout cela paraissait invraisemblable, insaisissable et irréalisable, qu'il avait pu dire « voilà la vérité, voilà le coupable », et que les juges, que les chefs de la sûreté ou de la police s'apprêtaient à le féliciter, à le complimenter, Martin Numa se retirait et disparaissait, ne voulant pas entendre le moindre éloge. Il lui suffisait d'avoir réussi. En touchant au but, il s'estimait payé de ses peines, de son travail, et il croyait que le succès final méritait d'avoir risqué sa vie comme il l'avait fait. Alors seulement il réunissait autour de lui ses lieutenants, Prosper, Philippe, quelques-uns de ses agents, chez qui il avait reconnu des qualités spéciales, qui lui plaisaient, dont il devinait les ressources, qu'il choisissait en somme pour élèves. Il me convoquait moi aussi le plus souvent à titre d'ami. Comme un professeur à son cours, il exposait alors les moyens dont il s'était servi, les manœuvres employées, ce qui lui avait permis d'atteindre le but. Il enseignait la méthode qu'il appliquait. Il soulevait des discussions en posant des questions à ses hommes. En somme, il semblait leur faire une classe, pour ainsi dire, de recherche judiciaire qui leur permit plus tard de sortir de leur simple métier, de donner à leur profession une ampleur que jusqu'ici elle ne possédait pas. Il voulait les contraindre à ne pas se contenter des moyens ordinaires et vulgaires des policiers habituels, mais les obliger à travailler par l'intelligence, leur faire exercer le sens critique afin d'arriver aux moyens de la déduction, de la logique, au but le plus difficile, alors qu'en d'autres temps, on se serait fié au hasard en comptant sur l'incertain. Pour cette affaire du père Louis, il nous dit donc « Je dois avouer ici, mes amis, que moi, qui précisément nie fortement le hasard, j'ai, comme vous l'avez vu, été grandement servi par ce hasard lui-même, par le plus grand des hasards, dis-je, et il semble, n'est-ce pas, que ma théorie est, par cette réussite même, démolie tout à fait et jetée à terre. En effet, comment ai-je trouvé le père Émile par hasard? Par le hasard qui m'a mis sur le chemin de ce brave batelier, par le hasard qui m'a permis d'assister à la bataille, par le hasard encore qui m'a fait entendre ceci, tu ne me feras pas à moi le coup de Suresnes. Cela, en effet, c'est du hasard pur, je pouvais ne pas l'entendre, je pouvais ne pas être là, et je n'aurais vraisemblablement jamais su l'histoire du père Émile. » Cela nous paraissait logique, en effet, et très clair. Mais ce n'était que le début de l'explication de Martin Numa. Nous ayons posé ce premier point qui donnait tout avantage au hasard et diminuait par là même son mérite très grand, il reprit. Cependant, mes amis, vous savez que si je nie le hasard, c'est parce que j'affirme que le hasard se prépare par ceux qui doivent en tirer profit. Et je déclare que le hasard devient une des conséquences de cette préparation, un des facteurs dont on est maître, dont il faut se servir, parce qu'on le tient soi-même, dans sa main, qu'on l'a voulu chercher et fait naître, en vérité. En riant, il ajouta « Évidemment, mon ami Courville qui m'écoute sourit et se dit que je fais là un aphorisme des plus bizarres et que j'émets un de mes axiomes les plus sujets à discussion. Je vais donc vous prouver que je n'avance rien qui ne soit logique et certain. » Il poursuivit. Je me trouvais donc chez mon ami du Bassamois. Or, les points de vue ne manquent pas dans cette région délicieuse pour faire des tableaux, des études, des pochades. Si je me suis attardé si longuement devant ce coin de Seine, d'ailleurs admirable, si j'en ai fait un tableau assez poussé, ce n'est pas, croyez-le bien, parce que ce coin-là précisément offrait plus de beauté, montrait plus de caractère, présentait des tons plus recherchés, plus jolis que tous ceux qui s'offraient à nos yeux ravis dans les environs. Nous nous en doutons. J'avais un but. Ce but n'était pas seulement de faire une toile, mais surtout d'étudier la plante des pieds des mariniers. À cette annonce, tous nous poussâmes un cri de surprise et d'étonnement. Martin Luma eut dans ses yeux gris cette lueur que nous connaissions tous, mais impassible. De sa voix claire et froide, il reprit. J'avais remarqué que les pieds de cet inconnu, de ce noyé, qui devait être maintenant le père Émile, portaient certaines cicatrices et des tares spéciales, ainsi que je l'ai fait remarquer lors de la première confrontation, et ces jours-ci, lorsque j'ai rétabli l'identité du malheureux, de ces marques que nous appelons les marques professionnelles. Nous en avons gardé le souvenir. Restait pour moi à découvrir la profession qui occasionnait ces tares spéciales. Et reconnaissons-le, assez difficile à établir, grandement difficile. Or, pendant que je peignais, avec la plus grande attention, la péniche qui était amarrée tout près de moi, j'ai pu voir au cours du travail auquel se livrait ce marinier devenu mon camarade et cet ivrogne, qui actuellement est sous les verrous, aussi même le capitaine, j'ai pu remarquer, dis-je, que ces hommes portaient aux pieds des tares, des callosités et des marques à peu près identiques à celles du malheureux que nous avons étudié sur la froide pierre. Parfait. Et je me suis dit naturellement, donc, l'homme que l'on a ramassé aux environs de Suresnes était un marinier, selon vos déductions. Ce point acquis, c'était déjà beaucoup, je me proposais de rentrer à Paris, lorsque je serais rétabli pour reprendre cette affaire et pousser mes recherches dans le monde des mariniers. Ce sont de braves gens, en général, qui vivent sur leurs bateaux de famille, qui font et refont le même trajet, indéfiniment, qui se connaissent tous entre eux. Je pensais qu'il me serait assez facile de savoir si quelqu'un manquait dans cette armée de précieux auxiliaires du commerce fluvial. Très bien. Étant ami avec les hommes de la péniche, j'espérais les retrouver. J'aurais alors envoyé quelqu'un de vous les interroger un jour quand cela serait nécessaire, lorsque la bataille eut lieu, le soir, dans le cabaret du père Neptune, et lorsque ce cri, du coup de Suresnes, vint à nos oreilles, à mon fidèle Prosper et à moi. Exact, chef. Vous voyez l'enchaînement désormais. Le fameux coup de Suresnes se rattachait, pour ainsi dire, aux marques du pied du noyé. De là, à lier un faisceau de suppositions, il n'y avait pas loin. Pour vous, non. Où le hasard nous a servi, c'est quand il a fait envoyer par le marinier brave homme un coup de poing terrible dans la mâchoire du marinier malhonnête. Ici, je puis dire qu'en ce combat singulier, ce fut une sorte de jugement de Dieu, et que le vice fut puni, je n'ose dire par la vertu, mais par l'honnêteté, comme cela devrait être toujours. Dès lors, à avoir l'explication du coup de Suresnes, à apprendre qu'un homme avait disparu, qu'on appelait le père Émile, qui faisait à ses moments perdus des paniers et qui par conséquent portait aux mains des traces de son travail comme celles que j'avais remarquées aux mains du malheureux que nous avions vu. Il ne fallait pas longtemps. Je tenais donc mon homme. Très bien. Je savais que le noyé ramené à Suresnes était un marinier, qui faisait des corbeilles. Qu'il s'appelait Émile, et qu'il avait été assommé un soir de dispute par cet homme que nous tenons désormais sous les verrous. Nous l'avons fait connaître par son assassin. Nous voici donc arrivés au but cherché grâce à ce hasard, mes amis, que j'avais, si vous voulez bien le constater, absolument préparé. Malgré nous, devant ces déclarations si simples, ces explications si claires et cette manifestation d'un esprit logique, de déduction et d'intuition absolument remarquable, devant ce triomphe enfin du raisonnement dans une affaire aussi délicate que celle-ci, nous ne pûmes nous empêcher d'applaudir Martin Luma et de le proclamer une fois de plus le roi des détectives. Martin Luma, le soir même, prenait le train et se rendait au Bas-Samois chez son ami, où il comptait goûter encore quelques jours de repos ou d'achever de se remettre. Il va sans dire que le secret de cette sorte de résurrection à laquelle nous devions sa présence parmi ces hommes était absolument gardé. Nul ne savait dans la presse ou dans le public que le roi des détectives était vivant. On le croyait toujours disparu, mort et perdu à jamais. Seuls ses ennemis, le tatoué et sa bande, savaient que Martin Luma était vivant. Mais ils ignoraient s'il n'avait échappé au coup de couteau que lui avait donné en traître l'ancien caissier du banquier M. de Krapps, au couteau empoisonné au curare qui ne pardonne pas. Et Martin Luma tenait spécialement à ne pas leur laisser savoir ce qu'il était devenu, comment il se portait et où il se trouvait. Cela pour des raisons qu'il est inutile d'indiquer, car elles sautent aux yeux de tout le monde. Tranquillement donc, il se remit à sa peinture, et la péniche étant partie, il ne fit plus de point de vue de la scène, mais rentra en forêt pour étudier, pour croquer quelques arbres, les antiques arbres, les vieux chênes, faire des études de fougères, de rochers, ne se portant jamais au même endroit deux jours de suite, écoutant vraiment un repos réparateur et savourant le charme du plein air de la campagne en ce moment dans toute sa splendeur. Philippe et Prosper, tous les jours, à tour de rôle, le tenaient au courant des événements qui pourraient l'intéresser, servaient de lien entre lui et ses hommes. Il faisait de telle sorte qu'il ne se séparait pas de sa brigade, et que tout en étant ici, dans la forêt, son esprit guidait encore ses hommes qui lui étaient si dévoués. Cependant, avoir réussi dans cette affaire du père Émile ne lui suffisait pas. « Un cadavre, me dit-il en riant, ce n'est pas assez pour mon appétit. Je me sens des envies nouvelles, des ardeurs plus grandes que l'ogre insatiable. Il nous faut un cadavre nouveau sous peu. Par cadavre, j'entends la reconstitution de la personnalité d'un être mystérieux qui, jusqu'à présent, a dérouté toutes les recherches et met en défaut nos amis du service du système Bertillon. » Il ajouta, « Il y a dans un four, car cette installation où l'on glace les cadavres porte le nom de four, gardé précieusement un individu fortement endommagé, qui a dit quelques mots avec difficulté, mots singulièrement intéressants, fait une révélation extrêmement grave, capitale pour moi, et qui maintenant, quoique muet pour jamais, doit achever de me révéler un secret terrible et me mettre sur la trace du plus grand problème dont j'ai eu à m'occuper depuis fort longtemps. Le dalle tatou. Cette disparition d'Éloi Vidal est en effet, jusqu'à présent, entourée d'un tel mystère que je crois que le jour où j'arriverai à l'éclaircir, il y aura dans Paris un moment de profond étonnement et un éclat général de stupéfaction. Il roula une cigarette et me dit « J'ai donc à trouver désormais qui est cet homme que nous avons dans la glace, qui est mort à l'Hôtel-Dieu et que personne n'a jamais réclamé. » À quelques jours de là, comme je venais le voir au Bassamois, l'ami chez qui Martin Dumas était descendu me dit « Mais il est parti depuis hier. Où est-il allé ? Il ne m'a pas dit qu'il dut s'absenter. Je n'en savais rien moi-même. Il m'a dit simplement tout à coup, le matin, qu'il partait pour quelques jours. Il allait voir, je crois, une exposition de tableaux, un salon qui venait de s'ouvrir et dans lequel figuraient une ou deux de ses toiles. À quel endroit ? À Paris ? Je ne crois pas. Il a fait ici une valise assez forte, que Prosper lui avait apportée la veille, ce qui indique qu'il emportait du linge, des costumes de rechange et qu'il allait loin. En effet, pour aller à Paris, il n'était pas nécessaire de prendre une valise. Il eût trouvé chez lui du linge, donc il est allé loin. Et j'ajoutais, « Bien que je ne sois pas doté de l'esprit de déduction de notre ami, je crois pouvoir dire que les pays où l'on aille voir en ce moment des expositions de peinture ne sont pas très nombreux. Qu'ils se réduisent à trois, et les voici, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie. C'est là trois foyers de peinture et où se trouvent les expositions de tableaux les plus remarquables et les plus fréquentés. Certainement. Donc, à mon avis, Martin Dumas est dans un de ces trois pays. » Quelques jours après, Martin Dumas revenait. Il ne disait pas où il était allé, et la valise assez forte qu'il tenait à la main ne portait aucune marque pouvant indiquer la route prise par lui. Mais il offrait à la femme de son hôte, comme gracieux remerciement, un bracelet et quelques bibelots à mettre sur une étagère, d'une touche toute particulière, d'un style spécial, d'ailleurs très joli. Il donnait aussi à son ami un souvenir artistique, et à moi-même il me remit un porte-cigarette dans un étui qui ne portait aucune indication de fabricant. J'admirais le bracelet de notre hôtesse charmante, je l'examinais, j'étudiais également les bibelots et Martin Dumas, qui suivait mon jeu du coin de l'œil, avait un sourire narquois car il avait deviné ma pensée. Il me dit « Vous cherchez, mon cher ami, à savoir d'où je viens en étudiant ces bibelots ? Eh bien, vous ne le saurez pas, car tout cela ne peut vous donner la moindre indication. Aujourd'hui, il y a dans l'art et dans la fabrication d'objets de ce genre une telle généralité que tout caractère spécial en est aboli et que toute indication de nationalité fait absolument défaut. De même qu'en France, d'ailleurs dans le monde entier, les costumes pittoresques et originaux des régions disparaissent peu à peu, lentement mais sûrement, devant les costumes tout faits du grand magasin. Laid, incommode, sans goût, mais pratique et bon marché. De même, dans l'art, l'unification se fait au détriment de l'originalité. C'est en effet malheureusement vrai. Cependant, en examinant le bracelet de madame, vous espérez trouver un style, reconnaître certains travaux qui vous permettront d'établir une sorte d'identité à ce bijou. C'eût été possible autrefois, aujourd'hui, hélas. Il y en a comme cela trop, malheureusement, de répandus par le monde. Vous en trouverez chez les marchands de Londres, chez les marchands de Berlin et chez les marchands de Rome. Il vous est par conséquent impossible de savoir où j'ai pu l'acheter. » Puis il me dit, « Mon cher ami, ouvrez le porte-cigarette que vous m'avez fait l'amitié d'accepter en bon souvenir de moi, et regardez-le bien. Étudiez-le, et vous devinerez d'où je viens. » J'ouvris l'étui du porte-cigarette, et nous nous mîmes tous à l'étudier, à le regarder, à l'analyser sous toutes ses faces sans rien voir. C'était un étui de cuir contenant un fume-cigarette. Martin Numa alors prit sa loupe, sa fameuse loupe dont il ne se séparait jamais, et il nous dit « Je n'ai pas eu la prétention, mon cher Courville, de vous faire un cadeau précieux, mais simplement de vous offrir quelque chose d'agréable. Donc, nous pouvons l'analyser sans arrière-pensée. Je commence par vous dire que je ne me suis pas ruiné en faisant son acquisition. Le prix de l'objet m'importe peu, votre attention a seule de la valeur. Eh bien, regardez le fume-cigarette. De quoi est-il composé ? D'un bout en ambre, très bien. D'un corps en or ciselé, pas en or, mon cher, mais en métal qui semble être de l'or, parce qu'il est bien doré. Regardez-le mieux. Il est incrusté d'émail, entouré de filigrane. Cela vous donne de précieuses indications. Je ne devine pas encore. Le bout en ambre, mon cher, provient généralement d'Angleterre, qui le tire des Indes. Le corps en métal doré, qui n'est pas de l'or, qui n'est pas en argent, qui est quelque chose dans ce goût, provient d'Allemagne. Le filigrane vous indique le travail italien. Le reste, les incrustations d'émail, elles se font partout. Et quel travail ! Nous voilà donc en présence d'un objet cosmopolite qui n'a pas de patrie, vous semble-t-il, dont on ne peut deviner la provenance. Eh bien, mon cher, nous allons établir immédiatement son identité. Nous vous écoutons. L'ambre n'est pas de l'ambre. C'est une imitation chimique, un composé de résine, une variété de verre qui vient d'Iéna ou de Düsseldorf, d'Allemagne, par conséquent. Le corps a été aussi fait en Allemagne. Remarquez, le travail est mal fini. Comme il se fait beaucoup de ces portes-cigarettes, que c'est un article courant, en somme, dans ces pays, on les fabrique en quantité, on les travaille à la grosse dans les chaumières de Bohème, et l'on ne prend pas de soins minutieux pour leur confection. L'on n'y donne pas ce fini des pièces qui sortent des mains des ouvriers parisiens. Ils ont seulement l'apparence d'objets d'art, de pièces artistiques. Ils sont jolis cependant. Les soudures, car le tube est soudé, bavent un peu et l'émail s'applique plus ou moins bien dans les creux faits pour le recevoir. Cependant, il faut ma loupe pour s'en apercevoir. Donc, mon cher, voilà un objet fabriqué en Allemagne que j'ai acheté ailleurs. Ce n'est pas rare. Où l'ai-je acheté ? Ici, autre problème. Ne vous déplaise, mon cher, ne cherchez pas davantage, vous ne trouverez pas. Je l'ai acheté non dans un bazar, mais chez un orfèvre indigène dans une colonie française, car vous n'ignorez pas que les colonies françaises sont faites pour que le commerce étranger en profite. Hélas ! J'ai acheté ce porte-cigarette à votre intention dans la rue Babazoum à Alger. À Alger ? Nous écriâmes-nous. Parfaitement. Et ce bracelet que notre charmante hôtesse veut bien porter, qui est un travail, paraît-il, kabyle, est une imitation d'un bracelet carthaginois, romain ou vénitien que l'on a découvert et qui se trouve au musée d'Alger, reproduit, contrefait, imité de toute façon par les fabricants allemands qui le vendent aux Anglais, lesquels l'expédient en territoire français, où on l'achète comme travail indigène. J'arrive donc d'Alger. Et comme nous le regardions étonnés, Martin Numa nous dit « C'est tout ce que je puis vous révéler aujourd'hui pour vous rassurer et ne pas vous faire chercher davantage. » Et il conclut « Ce que je suis allé faire à Alger. Mes chers amis, c'est un autre mystère. » Et il ne nous dit plus rien. Nous connaissions ses manies et nous savions que malgré notre curiosité, notre envie de connaître la raison de ce voyage impromptu, il ne dirait plus un mot. Personne, même pas la femme de notre hôte, ne lui posa de questions. C'eût été peine perdue. Du moment que, de lui-même, il ne disait rien, aucune force au monde ne serait parvenue à le faire parler. Alors nous dûmes nous contenter de nous occuper seulement des souvenirs qui nous avaient aimablement rapportés. Notre charmante hôtesse regarda avec plaisir son bracelet fort joli et moi je me mis à fumer dans le fume-cigarette. Et l'on ne parla plus du voyage à Alger.